Dans le magazine de Canal Sud, nous recevons maintenant Redouane Ikil. Bonjour Redouane.
Bonjour.
Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il a passé plus de 3 ans en prison, 38 mois exactement.
38 mois et 2 semaines.
Et 2 semaines.
Ouais.
Oui, on imagine que le temps compte. Hein, même
2 semaines, ça compte, oui.
Ouais, bien sûr. Tu étais accusé de complicité, voire même d'avoir commandité 2 braquages contre des agences bancaires de La Poste, qui était à l'époque ton employeur. Face à l'absence de tout élément à charge probant dans le dossier, un comité de soutien s'était formé au moment de ton arrestation. Comité de soutien qui s'appelait Liberté et Justice pour Redouane Ikil. Comité qui dénonçait l'acharnement et la discrimination dont tu étais victime dans ce dossier, hein, de manière assez claire. Et la bonne nouvelle, elle est arrivée le 30 juin 2017. À l'issue du procès, tu es finalement acquitté en première instance par la cour d'assises de la Haute-Garonne. Tu es libéré et évidemment, on imagine que tu as espéré pouvoir à ce moment-là reprendre le cours de ta vie, hein, le plus normalement possible. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. D'abord, un second procès s'annonce, puisqu'il y a eu appel du parquet général. Un procès en appel, ça peut prendre du temps, hein, ça veut dire une longue attente. Et surtout, là, plus immédiatement, plus proche de nous, tu viens d'être licencié par La Poste. C'était dans les tuyaux, mais c'est officiel. Tu as reçu un courrier en date du 15 septembre 2017, donc tout récemment. C'est pour ça qu'un rassemblement de soutien et de protestation est prévu demain, jeudi 28 septembre, à 14h, devant la poste des Minimes. Donc c'est la poste, c'est tout en haut de l'avenue des Minimes, hein, du côté du métro Barrière de Paris. Rassemblement appelé évidemment par le collectif Liberté et Justice pour Redouane Ikil, qui te soutient depuis le début, mais aussi par Sud PTT 31, Sud PTT 64, Attaque 31, le NPA 31, PIR 31 et tout un tas d'autres associations. On peut signaler aussi qu'une pétition circule sur Internet, hein, on la retrouve sur un blog sur Mediapart intitulé « La Poste doit réintégrer Redouane Ikil ». On y retrouve évidemment les collectifs et organisations que je viens de citer, mais également quelques personnalités comme Olivier Besancenot, dont on sait qu'il est lui-même postier, l'économiste Frédéric Lordon ou Mireille Fanon-Mendès-France, membre de la fondation France Fanon, pour ne citer qu'eux. Alors, avec toi, Redouane, on va essayer de revenir un peu sur toute ton histoire, parce que peut-être que certaines auditrices et auditeurs ne la connaissent pas entièrement. Et puis, on va évidemment parler de ce qui se passe aujourd'hui, si ça te va bien. Alors d'abord, peut-être juste revenir sur cette arrestation et sur le pourquoi de cette arrestation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tu es victime d'un braquage et finalement, comment tu te retrouves dans la position, tu passes de victime à accusé, comment ça s'est passé?
Alors, en fait, je me suis fait arrêter le 15 avril 2014. Donc, au moment où on me signifie le pourquoi de l'arrestation et de la perquisition, on me dit séquestration, enlèvement, séquestration, extorsion de fonds, bande organisée. Je regarde les policiers, je dis, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu comprendras, prends de l'argent, tu vas en prison ce soir. Bon, je pars avec eux et donc on fait les perquisitions. Bien évidemment, ils n'ont rien trouvé, bien sûr. Et ça faisait 2 ans qu'ils étaient sur moi, ils me suivaient, m'écoutaient. On arrive au commissariat, il m'explique le pourquoi du comment. Il me montre un plan. Mais je lui dis, oui, ben, c'est moi qui l'ai fait. Je lui dis, je l'ai fait en janvier avec un calibre sur la tête. Et il me dit, pourquoi t'as pas porté plainte? Je lui dis, ben, menace de représailles. Ils savaient où vous habitez mes enfants. Peu de gens savent que je suis originaire de Pau. Ils m'ont montré les photos de mes enfants. Ils m'ont dit, bon, on sait où ils habitent. Tu bouges, on s'occupe d'eux. Moi, ne voyant pas à quoi pouvait servir un plan. Sans détail.
C'était un plan de l'agence postale dont tu étais le directeur, c'est
non,
ça?
Non, l'agence de Saint-Cyprien.
D'accord, donc même pas une agence où...
Non, que je connaissais parce que je fréquentais ce bureau-là pour aider un petit peu la directrice de l'époque, parce que j'avais de meilleurs résultats qu'elle, donc elle voulait avoir mes bonnes pratiques. Donc je reconnais ça et il me dit, bon, on te croit pas, d'entrée. Il me dit, donc tu vas aller en prison. Donc je vois un juge d'instruction qui me dit, bon, ben, il faut qu'on vérifie ce que vous dites et vous allez en prison en attendant. Donc je vais en prison, je m'en veux à moi-même, je me dis, bon, mais t'aurais dû porter plainte, voilà, tu termines. Donc l'avocat que je rencontre, il me dit, bon, ben, laissez le temps de vérifier ce que tu dis, bon, ben, si ce que tu dis est vrai, bon, ben, tu vas sortir. Donc 4 mois après, je suis entendu pour la première fois pour le juge d'instruction, donc je n'ai pas nommé.
Donc ça faisait déjà 4 mois que tu étais enfermé. Hein.
Oui, mais je m'en suis pris qu'à moi-même, hein, parce que je n'avais pas porté plainte. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a seulement 30% des victimes d'agression qui portent plainte. Donc il y en a 7 sur 10 qui ne portent pas plainte. Donc On ne comprend pas pourquoi moi je ne l'ai pas fait, mais bon, je fais partie des 7. Donc je rencontre ce fameux juge d'instruction. Je le rencontre le 31 octobre 2014 pour la première fois. Donc il me dit, à la fin de l'audition, il me dit, pour moi c'est vous. Votre frère l'a fait avec le braqueur. Je dis, mais tout démontre que c'est pas vrai. Il me dit, mais je vais faire en sorte. Donc il fait ce qu'il fait. Effectivement, il a fait ce qu'il fallait pour que je reste. Il prolongeait, il lançait des commissions rogatoires l'une après l'autre pour que je sois maintenu. Et moi, je faisais appel. J'ai fait 72 demandes de remise en liberté, 25 appels, j'ai fait 2 cassations. J'ai tout fait. Tout ce qui était légal, je l'ai fait. Et il a fait rentrer mon frère. Il a fait rentrer mon frère pendant 16 mois pour me faire craquer. Mon pauvre frère qui avait du mal à trouver du travail à l'époque déjà, et parce qu'il n'est pas qualifié. Donc il l'a fait faire 16 mois et ils l'ont relâché au bout de 16 mois. Et moi, je devais sortir, je ne suis pas sorti, donc j'ai fait 2 ans de plus. Il m'a transféré à Montpellier, il m'a interdit le travail, il m'a interdit le sport, il m'a fiché S pour que j'aie un régime de détention beaucoup plus sévère, donc le régime DPS, détenu particulièrement surveillé. Donc toutes les 2 heures, j'étais réveillé par la ronde de nuit, il me réveillait, il fallait que je bouge, je signifie que j'étais encore vivant. Donc voilà, un cycle de sommeil de toutes les 2 heures, il fallait que je me réveille. Donc après, il me convoque pour la clôture de l'instruction. Ça, c'était en décembre 2016. Un mois après, il me convoque, on ne comprend pas pourquoi, avec l'avocat, et il me reçoit avec le sourire, il y avait le procureur de la République, il me dit « j'ai pas assez pour vous renvoyer aux assises pour la complicité, ça fait 2 ans que ça dure, quoi. Donc je vous dis que j'ai rien fait, maintenant vous me dites qu'il y a
pas… » Deux ans d'enquête et 2 ans d'enfermement, hein, on le reprécise. Hein. Ouais.
Non, 4 ans d'enquête et 2 ans d'enfermement.
Et 2 ans d'enfermement, voilà, pour toi.
Parce que l'enquête a démarré en 2012.
Oui, c'est ça, parce que les faits, en l'occurrence, ça concerne des braquages sur des agences bancaires, c'était un jeudi en mai 2012 et mai 2013, et notamment sur une agence à Bellefontaine où tu avais été, dont tu étais le directeur.
Hein. Un an avant, voilà. J'étais parti un an avant. Et donc il me dit avec le sourire, bon mais écoutez, on va au carton, si on vous renvoie pour la complicité, vous êtes acquitté, donc on va changer le motif de renvoi, je vous fais passer commanditaire. Alors, moi j'ai pas effectivement cette notion là de cette subtilité juridique que eux ont. Il me dit, bon mais vous passez un cap supérieur, vous prendrez plus que le braqueur. Mais je lui dis, mais vous n'avez pas trouvé de complicité, comment je peux être commanditaire, parce que je connais pas ce monsieur. Vous verrez. Il me renvoie donc en geôle et je pars en prison. Donc je m'explique avec l'avocat, il me dit oui, parce que la notion de commanditaire, c'est plus flou, il suffit juste d'un contact et on peut te condamner. Donc là, ça commence à...
Mais, donc ça montrait déjà qu'il n'avait pas ce qu'il fallait dans le dossier quand même. Il avait besoin d'aller sur quelque chose d'un peu plus... à la fois une accusation très grave et en même temps qui a besoin peut-être de moins d'éléments de preuve.
Complètement. Ouais. Complètement. C'est juste une notion à l'appréciation des jurés du président. Mais ce qu'il faut quand même que vous sachiez, c'est que dès le départ... Il n'a rien fait de manière réglementaire, ce magistrat. Il faut que vous sachiez, pour les gens qui n'ont pas eu le malheur de rencontrer ça, c'est qu'une commission rogatoire, c'était un laisser-passer tout pouvoir, un blanc-seing pour les policiers. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, écouter qui ils veulent, suivre qui ils veulent, demander des justificatifs à tout le monde. Et ça dure 2 mois. Une fois qu'elle est rendue, ils ont 48 heures pour me la communiquer, pour que je prépare ma défense. Et je ne peux pas être interrogé sur cette commission rogatoire sans avoir consulté cette commission rogatoire et sa synthèse. Et dès le départ, il a commencé à cacher les choses. Et ça, malheureusement, mon avocat, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais bon, bref, c'est comme ça. Commission rogatoire, la première qui rentre en juillet, qui me met hors de cause, il a caché. Pendant 6 mois, il a caché la commission rogatoire. Cette commission rogatoire, elle dit quoi? Elle dit précisément, texto, elle dit Monsieur Iquil Redon n'a pas pu avoir accès aux informations pouvant aider les braqueurs. Ça, c'est pour le braquage de Saint-Cyprien. Donc, on ne peut pas...
Celui sur lequel on a retrouvé le plan. Hein,
voilà, c'est... exactement. Donc, on sait que j'étais en vacances pendant que les faits se sont déroulés. On sait maintenant que je n'ai pas pu donner le coup. Donc, je demande au juge qu'est-ce que j'ai pu faire. Donc il m'interroge en octobre, alors qu'il n'avait pas le droit de me l'interroger dessus, il le fait. Il m'interroge une deuxième fois, pour essayer de me faire dire des choses qui pourraient me compromettre. Bon, rien, bien évidemment, moi je sais que j'ai rien fait, donc j'ai pas d'inquiétude. Et En février, je m'aperçois qu'elle est rentrée, donc on fait les requêtes nécessaires auprès de la chambre d'instruction pour que ce soit versé, et je lis ça. Et donc j'ai dit à mon avocat, ça y est, au renouvellement, je sors. Il me dit, oui, oh, ben oui. Et il a fait rentrer une nouvelle déposition et qui a fait un faux témoignage. Parce qu'il n'a même pas été utilisé au moment du procès. Ça a permis de me garder 2 ans, mais au procès, le procureur a dit, on n'utilise pas ce témoignage parce qu'il est fallacieux et farfelu. Mais n'empêche que ça m'a coûté 2 ans de plus. Hein. Voilà, donc c'était un juge d'instruction qui est toujours borderline, voire irrégulier. Et donc, il m'a dit que je serais aux assises menottées. Ben, il a réussi. Hein. Je suis allé aux assises menottées, alors qu'il n'y avait aucune preuve de ma culpabilité. Voilà. Donc ça a été, depuis le départ, ça a été un faisceau de présomption. Pense que tu as fait, peut-être que tu aurais fait, parce que j'ai le profil idéal. Ça c'est clair, depuis le début, les flics me l'ont dit, tu as le profil idéal. Je suis maghrébin, pour eux, bien sûr, parce que moi je considère que je suis français. Je suis maghrébin, j'habite les quartiers, je suis entraîneur de boxe. Et certains des mecs qui auraient peut-être aidé, mais ils n'ont même pas été mis en cause, le braqueur présumé, mais je les ai entraînés à un temps. La boucle était bouclée, mon sort était scellé. Donc il faut le vivre pour croire que c'est possible. Parce que si je raconte voilà, comme ça, je dis ouais, j'ai entendu ça, ben, on me dit c'est pas possible. Le mec il fait pas 38 mois et 2 semaines avec rien. Mais si, ça existe en France, ça existe. Quand un juge d'instruction veut votre peau, ben, il peut l'obtenir.
Ouais, tu disais là dans un entretien au Courrier de l'Atlas là il y a quelques semaines, entretien réalisé par Nadir Dandoun, tu dis ce cauchemar m'a permis de comprendre que personne n'est à l'abri d'une injustice, encore plus si vous vous appelez Redouane ou Mohamed. Toi tu l'as senti tout au long, alors tu dis que la police t'en a parlé, mais notamment dans tes rapports avec ce juge d'instruction là, oui. Tu as senti que cette origine faisait que expliquer une partie de l'acharnement.
Bien sûr. Ah, oui, je l'ai senti, je l'ai vécu de plein fouet. Parce que de toute manière, moi, quand j'ai rencontré ce monsieur, bon, mais d'emblée, il m'a dit qu'il voulait ma peau. Il m'a dit, moi, pour moi, mon but, c'est de vous amener aux assises, me noter que vous soyez condamné. Donc, bon, alors qu'il vient juste de prendre le dossier. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur qui était en charge du dossier, c'est quelqu'un quand même qui a été sanctionné par le Conseil de la magistrature pour propos racistes en plein tribunal. Il appelait les Arabes les Melans. Et c'est des mecs qui passaient au tribunal devant lui. Il était président du tribunal de Nîmes. Et bien, il les appelait les Melans. Les Melans. Voilà. Bon, donc, vous voyez les deux personnes qui s'occupaient de mon dossier, voilà, quand leurs idées politiques assumées.
Et encore, tu dis sanctionné, mais sa sanction consistait à être muté au tribunal de Toulouse.
Exactement.
Rien de plus.
Quoi. Rien de plus.
Et on en parlait hors antenne, hein, évidemment, qu'être muté à Toulouse, c'est pas vraiment une sanction, hein, c'est plutôt un poste qui est réclamé. Quoi.
Non, parce que lui, il était président du tribunal, il se retrouve substitut procureur.
D'accord, ouais. Voilà. Une belle place, mais il baisse dans la hiérarchie. Alors, c'est vrai que c'est important d'en parler du procureur, parce que donc, le juge d'instruction va décider de te garder hein, parmi les accusés et de mener donc, cette enquête à charge contre toi pendant toutes ces années. Mais le procureur suit totalement, puisqu'on a dit que tu avais été acquitté, mais pendant le procès, lui, le procureur, il avait requis 30 ans de prison. Donc, je veux dire, c'est pas rien. Il a été désavoué par le jury. Comment il a justifié devant le tribunal, au procès, comment il a pu justifier 30 ans, alors que visiblement, le dossier était suffisamment vide pour qu'à la fin, tu sois totalement blanchi.
Complètement. Ben, en fait, c'est vrai, j'ai pas, je sais pas si vous, mais moi, en tout cas, j'ai pas pour habitude d'assister à des procès en assises. Mais mon avocate a été outrée. Elle leur a dit, elle leur a signifié, Maître Cohen Saban, Alice. Elle a dit, je ne savais pas qu'un procureur pouvait mentir autant. Dans une salle d'audience comme ça. Elle a dit, je ne sais pas comment c'est possible que vous mentiez autant. Parce qu'en fait, quand il a fait son réquisitoire, il a repris que des éléments, donc des interprétations qu'il lui a fait et ou que le juge d'instruction a fait ou que le procureur qui est en charge du dossier ont fait. Et ça lui permettait de justifier les 30 ans. Il n'a fait un réquisitoire que sur la base de mensonges, des interprétations, et à aucun moment donné, il a donné un élément factuel me mettant en cause. À aucun moment. Il dit, j'aurais demandé perpète s'il y avait eu du sang. Alors tout le monde s'est retourné, on se regardait, il a fait son réquisitoire, il a dit, je demande 30 ans. Mais tout le monde est tombé sur la chaise. tout le monde. Les avocats qui ont l'habitude, maître Cohen Savant ou maître Édouard Martial, qui a 30 ans de bouteille, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, mais c'est n'importe quoi, il me dit, c'est n'importe quoi. Il demande 30 ans et il ne donne aucun élément qui justifie pourquoi il demanderait 30 ans. Tu n'es pas connu par les services de police, il n'y a rien dans ton dossier. Il me dit, je sais pas. Il me dit, il a tenté le kit ou double. Soit tu prends rien, soit tu prends la totale.
Alors, on comprend bien qu'au départ, les policiers, en tout cas, t'ont accroché avec cette histoire de plan dessiné. Ça, c'était l'agence de Saint-Cyprien. Mais comment ils ont pu essayer de raccrocher ça avec ce qui s'était passé, donc les braquages de l'agence de Bellefontaine et celle également de Plaisance-du-Touche, puisqu'il y avait, je crois, une agence aussi à Plaisance-du-Touche qui était concernée. Non, c'était Saint-Cyprien et Bellefontaine. Ouais. Là, d'accord.
Les victimes habitaient Plaisance-du-Touche.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'est pour ça.
D'accord. Donc, c'est ça. Et donc, c'était d'un côté, c'est parce que t'étais le directeur, et de l'autre côté, c'est parce qu'ils ont retrouvé ce plan. C'était simplement ça, les liens pour eux
Non, en fait, ils ont raccroché les deux braquages parce que, a priori, ce serait la même équipe.
Réalisé à un an d'écart, mais avec les mêmes procédures.
C'est ça, parce qu'ils ont retrouvé un ADN en commun, celui de la personne qui a été condamnée. Ils ont retrouvé son ADN sur les deux braquages. Et donc, ils sont partis du principe que c'est la même équipe. Sachant qu'à aucun moment, ça a été prouvé que c'était la même équipe, parce que c'était à peu près le même modus operandi, mais a priori, c'est pas la même. A priori, c'est pas... L'enquête a démontré, le procès aussi, que c'était pas la même équipe. Ils m'ont raccroché sur les deux, parce qu'effectivement, sur l'un, j'avais été directeur pendant 3 ans, et sur l'autre, on a retrouvé donc, le plan que j'avais fait sous la contrainte. Je tiens à préciser quand même que pendant le procès, des choses ont été dites qui étaient vraiment très graves, notamment par des témoins qui étaient censés venir me descendre. C'est des collègues de travail, et à qui on a mis la pression. Elles ont dit devant le président de la cour d'assises, il y en a une qui d'ailleurs a été mise en garde à vue, la pauvre, parce qu'on l'a soupçonné d'avoir une relation intime avec moi pour que je puisse avoir les informations, parce qu'il savait que concrètement je ne pouvais pas avoir accès aux informations directement au bureau de poste, parce que je n'y allais plus. Et donc ils se sont dit, c'est obligé que ce soit quelqu'un de dedans, c'est pas lui, donc c'est forcément une fille de là-bas qui doit draguer ou avec qui doit avoir une relation, donc ils l'ont foutu en garde à vue. Et elle a dit, on m'a mis en garde à vue parce qu'il n'y avait rien contre M. Ekil, ils me l'ont dit, Monsieur le juge a besoin d'éléments contre M. Ekil, donc aidez-nous. Donc c'était ça. Donc le deal, c'était, on a mis en garde à vue pour lui mettre la pression, pour qu'elle dise des choses contre moi. Donc ça donne un petit peu une idée de comment ça a été traité ce dossier. Deuxième détail qui était accablant pour le directeur d'enquête, il arrive à un moment donné où on lui dit, l'agression de M. Ekil, vous en pensez quoi? J'y crois pas, il a dit. Vous avez enquêté? Non, on n'y croit pas. On n'y croyait pas, dès le début on n'y croyait pas, d'accord. Il lui a dit, vous avez été vérifié la fenêtre dont il dit qu'ils sont passés? Non, ça fait plus de 3 mètres. D'accord, elle a dit, vous êtes sûr que ça fait plus de 3 mètres? Ouais. Mais elle a sorti les photos... Ça va faire à peu près 2,40 m. Donc n'importe quel mec qui fait 1,90 m, il y arrive sans sauter. Ensuite, elle leur a demandé, est-ce que l'identification des agresseurs de M. Ekil, vous avez cherché un petit peu à les retrouver? Oui, le recuiller coupé, noir, 1,90 m, il n'y en a pas en France. Et là, elle lui dit, vous êtes sûr qu'il a dit ça? Elle lui dit, non. Il a dit de l'annulaire, donc vous n'avez pas cherché. Elle lui dit, non, j'ai pas cherché. Voilà. Donc à aucun moment donné, on a cherché à me disculper. Non, on a cherché à m'accabler, à me descendre pour que le scénario qu'a imaginé le procureur avec le juge d'instruction, ça colle.
Oui, et avec jamais de recherche sur les éléments que toi, tu pouvais apporter ou sur ta version des faits.
À aucun moment. C'était vraiment à charge. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pu, tu t'es rendu compte au fur et à mesure que la procédure n'était pas respectée au niveau du juge d'instruction et du procureur, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pu faire appel ou pouvoir dénoncer cette procédure?
C'est simple, je lui écrivais une fois par semaine avec des éléments factuels, je lisais beaucoup en prison. J'écris directement au juge et ensuite, il faut que vous sachiez aussi, quand vous faites une demande de remise en liberté, ce qu'on appelle une remise en liberté provisoire, tous les 4 mois, vous avez le droit d'aller siéger et d'être présenté devant la cour de la chambre d'instruction. Et là, vous avez le droit de vous exprimer, tous les 4 mois. Donc, j'y suis allé, j'ai effectivement dénoncé ces pratiques et à chaque fois, c'était fin de non-recevoir, c'est pas votre problème ça. Donc mon avocat, je pense, un peu apeuré. Il ne voulait pas rentrer en clash avec les magistrats du tribunal où il exerce. Donc il m'a dit, calme-toi, t'inquiète pas, ça va se finir, t'inquiète pas. Et au bout du compte, j'ai fait 38 mois. Parce qu'une fois que le dossier est clos, vous ne sortez plus. Donc il fallait que je sorte avant la fin de l'instruction. Moi. L'idée, c'était ça. Parce qu'une fois que l'instruction est clos, c'est fini. Vous ne sortez plus, on vous met ce qu'on appelle un maintien à corps, vous restez en prison jusqu'au procès.
Est-ce qu'on doit juste comprendre, parce que ça fait plusieurs fois que tu parles d'avocat et d'avocate, que tu as changé d'avocat au cours de, oui. au cours de ton...
Oui, tout à fait. J'ai eu Maître Martin Alexandre, qui a fait du très bon travail, mais je lui reproche simplement ce courage qu'il aurait fallu pour dénoncer ses agissements. Sinon, il a fait tout ce qu'il fallait légalement, il l'a fait, il a fait les recours nécessaires, on a fait cassation, on a tout fait avec lui. Et... Je lui reproche effectivement cette combativité qu'il aurait fallu, un peu cette agressivité entre guillemets, pour aller au clash avec ces magistrats, parce que bon, le corporatisme de la magistrature, il est connu, dénoncé par beaucoup d'avocats des ténors. Ici, c'est vraiment le cas. Et bon, malheureusement, voilà, il a pas été jusqu'au bout de ce qu'il aurait fallu faire, et c'est pour ça que je m'en suis séparé. Et j'ai pris Edouard Martial et le père et la fille Cohen Saba. Ouais.
Ouais, t'as ressenti quand même le besoin de changer un moment ouais. en cours.
Oui, parce que voilà, si ça se passait à Toulouse, j'ai vu qu'il a vu. Parce que, bon, comment il s'appelle, le juge d'instruction, il a quand même diligenté une enquête sur mon avocat et sur l'avocate du mis en examen. Parce qu'il soupçonnait qu'on arrangeait nos versions. Et ça, on l'aurait fait à la prison. Donc, il a quand même fait faire des auditions, il les a fait entendre au commissariat et tout ça, juste pour la mettre la pression, parce que ça a marché. Tout le monde s'est calmé, personne n'a fait de recours, personne n'a saisi le conseil de la magistrature.
Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'intention de pouvoir saisir le conseil de la magistrature ou de pouvoir justement faire une action ?
Ce n'est pas moi à le faire. Ça, c'est pas le moins à le faire. Si lui, quelqu'un doit le faire, c'est le conseil de la magistrature, c'est mon avocat Alexandre Martin. C'est lui qui doit le faire, parce que moi, je ne suis pas concerné. Moi, les vices de procédure ont été vérifiés, il n'y en a pas. Mais voilà, ça aurait été un rappel à l'ordre si on l'avait fait en temps et en heure. Mais ça m'aurait permis, effectivement, parce que de faire appliquer la réglementation. Par exemple, la confrontation avec le braqueur, je l'ai demandé le 22 mai 2014. Normalement, ils ont 4 mois pour le faire. Je l'ai fait 13 mois après. Voilà. Parce qu'au moment où je devais passer en renouvellement de mon mandat de dépôt, c'est simple, on m'a dit, il faut faire la confrontation, monsieur Ikil. Je lui ai dit, mais ça fait 11 mois que je la demande. Mais on va la faire alors. 3 mois après, on l'a fait. Donc ça fait ça.
Alors ça, c'est évidemment, là, on parle de toute cette enquête, de toute cette procédure, ce temps en prison. Finalement, donc, on l'a dit, tu es libéré. Pendant tout ce temps en prison, à quoi a servi le comité de soutien ? Alors déjà, il a informé, hein, il a fait du battage autour de ton affaire. Est-ce qu'il a eu un autre rôle ?
Écoutez, le comité de soutien a eu, je dirais, le rôle essentiel d'alerteur au niveau de la presse et au niveau du public, via la page Facebook et le site, et une mobilisation à chaque fois que j'étais extrait pour être entendu soit devant le juge, soit devant la chambre de l'instruction pour une demande de remise en liberté, pour montrer à la magistrature que j'étais soutenu. Et après, voilà, c'est vrai qu'ils ont soutenu énormément ma femme dans ce combat. Parce que bon, c'est vrai qu'elle était toute seule ici sur Toulouse, et en plus elle travaille à la poste, donc c'est très 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 délicat pour elle de gérer son emploi à la poste, et en sachant que son conjoint est mis en cause dans une affaire qui est délicate pour les postiers. Donc c'est vrai que c'était délicat, ils l'ont aidé et soutenu moralement. Voilà, c'était essentiellement ça le comité de soutien, et bon, c'est vrai qu'il me soutenait via des courriers de soutien et pour que je garde le moral, quoi, que je baisse pas les bras, quoi.
Et il continue à te soutenir maintenant, hein. De toute façon, on l'a dit, hein, il y a un deuxième procès qui va arriver car il y a eu un appel du parquet général. Alors ça, on en reparlera un peu après, mais ça prouve quand même que la hiérarchie, on va dire, en tout cas le parquet continue à suivre le travail de ce juge d'instruction et de ce procureur, malgré le fait qu'ils aient été désavoués pendant le procès. Et puis il y a cette histoire avec la Poste qui, elle, a décidé du coup, alors que tu avais été acquitté là en première instance, de te licencier. On va y revenir, on va d'abord faire une petite pause musicale dans le magazine. Tu nous avais dit là, quand on s'était vu pour préparer l'émission, que t'aimais bien le hip-hop old school. Coup, on est allé sortir quoi, un petit NTM ?
Un petit NTM ou un petit Assassin ?
Allez, vas-y, tu choisis.
Ou NTM alors.
Allez, NTM.
Une valeur sûre.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression, stopper net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
Que vivre baïonné,
en effet,
comme le veut la société,
c'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même avant je reste.
Brûle l'État,
policé en premier, et on voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décider donc mentalement de s'équiper.
Quoi?
Tes miroirs tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi.
Oh, désarroi déjà roi.
Le monde rira l'en élection.
Oh, désarroi déjà roi.
Vous subirez la même pente. La connaissance, c'est pourquoi j'en attends tant. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc l'heure n'est plus à l'indulgence, mais au fait par le feu, ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'on se pardonne plus. Oh, nous n'avons rien à plaquer, nous n'avons jamais eu. Ouh, à votre place, je ne dormirai pas
tranquille.
La bourgeoisie peut trembler, les guerres sont dans la vie. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons à l'Élysée brûler les vieux. Et bien, faut bien qu'un jour il paye. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Sont nos repères, sont nos modèles de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai pensé.
Ah, il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à mon compte. Mais quand bien même, la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines.
Alors arrêtons
tout. Plutôt que cela traîne, ne traîne même encore plus de haine. Une étion ne pourra s'inérer ce système.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'on se fasse? 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 Mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'on se fasse?
Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu?
Ouais, NTM, c'était pour un petit clin d'œil, parce que Redouane Ikil, notre invité aujourd'hui, nous avait dit que lui, il écoutait plutôt du vieux hip-hop old school, alors
c'est
voilà.
Ça, c'est ça,
on parle avec toi, Redouane Ikil, de ce que tu as vécu, ces 38 mois de prison accusé de complicité, voire d'avoir, d'être commanditaire dans deux braquages qui ont eu lieu dans des agences postales de La Poste, c'était ton employeur à l'époque,
oui.
L'agence de Bellefontaine dont tu étais le directeur, et l'agence Saint-Cyprien. On a parlé très rapidement, avant la pause musicale, de ton frère. Donc lui aussi s'est retrouvé embringué dans cette histoire-là. Il a fait un peu moins que toi, il a fait 16 mois, c'est ça ?
16 mois.
Donc même beaucoup moins que toi. Comment il est sorti, lui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'au départ, on l'accusait d'avoir participé lui aussi au braquage. Hein.
Tout à fait. En fait, quand il y a une enquête comme ça, à la fin de l'enquête, le juge d'instruction rend ses conclusions, il les envoie au procureur, qui fait son réquisitoire. Et tout ça s'est présenté à la chambre d'instruction qui valide le renvoi aux assises ou non. Et à ce niveau-là, mon frère, ils ont vu qu'il n'y avait strictement rien, mais quand je dis rien, c'est rien, pour le renvoyer aux assises. Donc, ils ont conclu à un non-lieu. Merci, au revoir, excusez-nous.
Sans procès. Hein.
Sans procès, bien sûr. Mmh. Sans procès, ça s'arrêtait là. Ouais. Donc, il est sorti. Et il est rentré chez lui, il n'a plus de boulot, sa femme, ça se passe très mal avec lui, parce que bon, c'est vrai qu'il a fait 16 mois. Le lambda, il se dit, on ne fait pas de la prison si on n'a rien fait. Donc, bien sûr, elle ne sait pas si elle n'a pas un double visage, mon frère, c'est pas un voyou. Voilà, c'est très compliqué. Son fils qui est rentré dans l'adolescence, ben, ça a été compliqué pour lui aussi. Donc voilà, ça a eu beaucoup, beaucoup d'effets. Ma mère, je ne vous en parle pas, parce que ses deux fils en prison, alors, je ne vous raconte même pas. Elle est dans une dépression pas possible, elle n'arrive pas à se relever. Donc oui, effectivement, ça a été une très, très, très rude épreuve. Après, moi, si vous voulez, maintenant que je connais ce sujet d'instruction, je sais pourquoi ça a été fait. C'était juste pour me miner à moi, pour me faire craquer. Parce qu'il sait que c'est moi qui l'ai élevé, ce petit frère. C'est moi qui l'ai élevé parce qu'il n'a pas connu son papa. Donc c'est moi qui fais office de papa. Donc il savait que ça allait m'impacter énormément. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a fait le plus mal dans ma détention. C'est le fait qu'on rentre mon petit frère.
Pour toi, tu crois que c'était un moyen de te mettre la pression et de te faire craquer ?
Ah, c'est une certitude. Certitude parce qu'il lui faisait comprendre par des petits messages. Il disait, si ton frère il avoue, tu sors. Hein. Il disait à chaque audition, il disait, mais si ton frère il avoue, t'as rien à faire là. Hein. C'est lui qui assumera, il ira aux assises. Mais si ton frère, à chaque fois il disait ça. Moi j'avais un téléphone en prison, même si c'est interdit. Et ceux qui sont pas contents que j'ai un téléphone, c'est parce que je leur les invite à aller en prison un petit peu. Ils verront ce que c'est la prison. Donc j'avais un téléphone et je communiquais avec lui. Il m'a dit, je sais pas combien de fois, mais t'es sûr que t'as rien fait quoi. C'est mon petit frère quoi, c'est moi qui l'ai élevé quoi. Mmh. Et donc à tel point qu'il avait peur d'aller aux assises, de ramasser pour rien. Donc il me disait, ouais, mais si t'as fait quelque chose à vous, parce que sinon moi je vais aller au carton aussi. Voilà, donc c'est terrible ce qu'ils ont fait, c'est terrible. Ils ont détruit deux vies pour rien et je compte pas, je vous dis, les dommages collatéraux, ma mère, ma femme, mes enfants, c'est terrible.
Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais tu es père de famille aussi. Oui.
Alors justement, pour revenir sur ces 38 mois et deux semaines de vie en prison, tu parlais du téléphone là tout de suite, comment on fait pour tenir ? Qu'est-ce qui t'a fait tenir ? Quelles sont les différentes tactiques que tu as eues pour pouvoir...
En fait, moi, je parle de mon cas personnel, mais quand vous êtes en prison, quand vous avez fait quelque chose, c'est quand même beaucoup plus simple. Même si, effectivement, la violence, il y a des profils pour lesquels c'est beaucoup plus difficile... Donc c'est la violence, le racket, le tabassage, tout ça, c'est... Quand vous avez fait quelque chose, c'est dur la prison, mais on l'accepte, parce qu'on a fait quelque chose. Mais quand vous êtes innocent, vous savez que vous n'avez rien fait, que vous êtes en prison, deux choses. Soit vous vous suicidez, soit vous vous battez. Alors moi, je ne suis pas tendance suicidaire, j'ai des enfants, j'ai une femme, donc une famille. Donc j'ai pris l'option du combat. Et mais beaucoup de surveillants qui m'appréciaient énormément, parce que là où j'ai été, dans toutes les deux prisons que j'ai fait, j'étais très apprécié parce que je suis quelqu'un de carré, droit, respectueux. Donc ils me disaient, mais comment tu fais ? Je dis, je vais faire quoi ? Je vais taper un surveillant, je vais séquestrer un surveillant pour crier mon innocence, je vais me rajouter une affaire et je vais arriver à la barre avec ce passé, et on va me condamner parce que j'ai un profil de voyou. J'ai dit non, je continue à croire en la justice, je crois au combat que je mène et c'est pour ça que je continue mes demandes de remise en liberté. Le procureur, là, je ne vais pas citer non, le raciste, là, il a osé me dire « Vous harcelez la justice. » Parce que je faisais trop de demandes de provisoire. Il me l'a dit. Devant témoin, c'est filmé, donc il ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est filmé, c'est enregistré, ces audiences-là. Il m'a dit « Vous harcelez la justice avec vos demandes de provisoire. »
Oui, alors que tu utilisais les droits auxquels tu as accès pour te défendre.
Hein. Non, mais c'est même pire que ça. C'est tellement vicieux, c'est que si vous ne faites pas de demandes de provisoire... Au moment du procès, on vous dit, mais vous n'avez pas fait de demande provisoire, monsieur, si vous êtes coupable. Sinon, vous criez votre innocence. Et quand vous en faites, on vous dit, vous harcelez la justice. C'est un truc de fou, quoi. Je lui dis, mais je sais pas qui c'est qui harcèle qui, je lui dis. Mais voilà, c'est le problème, c'est quand vous... J'ai tenu le coup, franchement, parce que bon, je suis une nature combative, j'ai eu d'autres... j'ai eu un parcours de vie très difficile, mais ça m'a appris à serrer les dents, se dire que ça va passer, c'est un orage. En boxe, on sait ce qu'on se dit quand on ramasse. C'est un orage, ça va passer, après l'orage, en général, ça va mieux. Mais j'ai jamais cru que je baisserais les bras ou quoi que ce soit, non. Je voulais montrer l'image à mes enfants que du papa qui a toujours travaillé, qui était un exemple, qui se battrait jusqu'au bout. Si j'étais condamné, je leur avais dit, hein, je leur avais dit, mes grands, qui sont en âge de comprendre, ils ont 14 et 12, je leur avais dit, la justice, elle vérifie ce que j'ai dit, et après je sortirai. Et après, je leur ai dit, bon ben voilà, ils veulent ma tête, on verra si j'arrive à me faire innocenter, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne me laisserai pas faire. Donc eux, ils n'étaient pas d'accord sur la médiatisation parce que ça a impacté leur vie scolaire. À l'école, on parlait de leur papa, et à papa, et papa, et ton père, c'est un braqueur, et voilà. Donc c'était un petit peu délicat pour eux. Mais je leur ai expliqué que voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à dénoncer des acharnements judiciaires.
Alors, libéré, du coup, on l'a dit au tout début de l'été, hein, tu as été acquitté le 30 juin.
Oui.
Comment ça s'est passé, ce retour à la liberté? Bon, on imagine bien que tu étais soulagé, évidemment, mais c'est pas simple, après avoir passé autant de temps en prison, j'imagine, de sortir, même s'il y a le plaisir de retrouver les siens et puis la liberté de mouvement, évidemment.
Bien sûr. En fait, j'ai eu un mauvais passage avant le procès, avant de rencontrer Edouard Martial. Tous les avocats que j'ai rencontrés m'ont expliqué, et c'est des ténors, hein, je parle de ténors, c'est les cabinets Dupont, Leclerc, Spinner, Herzog, tout ça. Ils m'ont tous expliqué que du fait que j'ai fait autant de prison, que très certainement je serais condamné pour ne pas être indemnisé. Donc je m'étais mis en tête, et j'en discutais avec ma femme, hein, ouais, je vais être condamné parce qu'ils ne veulent pas payer.
Oui, parce que alors là, on explique, on précise qu'évidemment, à partir du moment où t'avais fait plus de 3 ans de préventive, si t'avais été condamné, par exemple, à 2 ans ou 3 ans, eh bien, tu sortais quand même, mais du coup, t'avais fait la peine de prison à laquelle tu avais été condamné, donc évidemment, derrière, il n'y a pas de recours possible.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, je m'étais mis en tête, malheureusement, je m'étais préparé à ça, et quand j'ai rencontré Edouard Martial, il me dit, mais t'es fou, il me dit, mais je ne suis pas là pour te faire condamner à 8 ou 9 ans, hein. non, pas du tout, il me dit, il n'y a rien dans ton dossier, je ne vois pas pourquoi il te condamnerait, même si, effectivement, tu as fait beaucoup de prison, ce n'est pas la première fois, donc il m'a redonné un peu d'espoir. Et pendant le procès, c'est vrai qu'il y a eu des mouvements et des rebondissements. Et quand il a demandé 30 ans, je suis rentré en cellule, je me rappelle, bon, j'ai pas mangé, bien sûr, j'ai perdu 7 kilos en 9 jours. J'ai pas mangé et je me suis endormi comme si j'avais pris un gros coup de poing, comme un KO. Et le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, ouf, il a demandé 30, c'est pas possible. Et quand il a eu l'acquittement, bon, bien sûr, j'ai une petite larme qui a coulé, mon avocat, sa petite larme a coulé, on s'est pris dans les bras et je lui ai dit merci beaucoup. Et mes affaires étaient prêtes de toute manière, parce que même si j'étais condamné, il aurait fallu que je reparte à Montpellier. Donc mes
tu
affaires.
Tu changes de centre pénitentiaire.
Tout à fait. Donc mes affaires étaient prêtes. Et donc ça, j'ai pris 10 minutes pour mettre tout dans un chariot, donner tout ce qui restait là-bas, la bouffe, les matériels, l'IFI, tout ça. Je les ai donnés aux gens qui restaient. Et je suis parti, et en fait, je ne me suis pas retourné, quoi. Quand la porte s'est ouverte, c'était mon petit, le dernier, qui a 3 ans, qui m'attendait derrière. Bon, voilà, c'est la grosse bouffée, là. Les larmes aux yeux. Et on est parti, et... Bon, un bon mois, je ne sortais pas le matin, parce que j'attendais qu'on ouvre la porte, en fait. Voilà, il n'y a pas de truc... même encore aujourd'hui, des fois, j'hésite à sortir, je vois la clé, je repars. Je repars. Parce que voilà, j'ai pris l'habitude qu'on ouvre et on me dit, tu vas en promenade? Non. Et on referme. Donc c'est le truc le plus difficile, c'est ça. Quand on est sorti après autant de prison, parce que le psychiatre m'avait expliqué qu'il y a un cap à passer au niveau des 3 ans. Au bout de 3 ans, vous coupez tout. 1 an, 2 ans, ça va. Vous maintenez les liens avec la dehors. 3 ans, tout le monde vous oublie. 3 ans, vous êtes déconnecté de la vie de dehors. Et les gens vous ont oublié. Donc c'est vrai que moi j'ai fait 38 mois et 2 semaines et j'ai très très peu de contact avec les gens de dehors, hormis le comité de soutien. Voilà, c'est des gens que je ne connaissais pas, le comité de soutien, pour la plupart. C'est des gens qui ont vraiment un grand cœur, qui m'ont soutenu. Et ceux qui m'ont connu et les collègues de travail malheureusement, hein, très très peu m'ont soutenu, parce que la direction de la poste leur a mis un avertissement. Si le premier qui prenait contact avec moi, il risquait des sanctions. Donc voilà, l'après-prison était très délicat à gérer. Je suis suivi par un psychiatre parce que je travaille pour la violence que j'ai en moi. J'ai énormément de haine.
De la colère,
hein. Non, de la haine. La colère, c'est gentil. La haine, non. Je suis plein de haine. Ça déborde de partout. La haine de mes yeux, ma bouche, mes oreilles, de partout. Je canalise et j'essaie de canaliser cette haine qu'il y a en moi. Et si c'était possible, c'est sûr que je ferais du mal à certaines personnes. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Qui m'ont fait du mal, je leur ferai du mal. Je suis vraiment, vraiment chargé de haine. Je leur ferai du mal, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est eux les plus forts aujourd'hui et on verra.
Alors, nouvelle liberté, travail de reconstruction, on entend bien. Refaire une vie aussi, hein, tu le dis, hein, c'est plus forcément les mêmes amis, les mêmes proches, etc. Même si, évidemment, il reste ta famille immédiate, hein, ton frère, ta femme, etc. Du coup, ça c'est déjà un sacré boulot, mais les nouvelles tombent quand même. Et donc, on va rester déjà du côté judiciaire pour commencer, si tu veux bien.
Oui.
Donc, on l'a dit, appel du parquet général. Et donc là, c'est reparti pour un tour et ça peut être très long. Hein.
Oui.
Il y aura un procès en appel, du coup.
Oui, j'ai reçu d'ailleurs même le papier la semaine dernière pour me désigner le tribunal qui sera en charge du procès, ce sera Albi. Alors la date, impossible de vous communiquer la date parce que ça sera approximativement dans les 2 ans.
Donc c'est très long, hein, quand
même. Très très long. En attendant, votre vie, elle est en stand-by parce que là, aujourd'hui, on va en parler plus tard, je suis en procédure avec la Poste parce que la Poste a souhaité me licencier. Mais même pour retrouver du travail, ça va être très compliqué parce qu'avec ça sur la tête, c'est compliqué.
Ouais, et puis alors en plus, il y a autre chose dont on parlait hors antenne avec Nelly et Timothée, c'est que évidemment, quand on a été enfermé aussi longtemps et qu'on est acquitté, on est en droit de se retourner contre l'État et de dire bon bah là, vous m'avez mis en prison, vous avez pris 3 ans de ma vie, même un peu plus. Et bon là, généralement, c'est un arrangement financier, l'État verse de l'argent. Mais cette procédure là, elle ne peut se lancer qu'une fois que tous les recours sont épuisés. Donc là, en l'occurrence, l'appel suspend tout ça. Hein.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Là, je repars avec zéro. J'ai vendu ma maison pour payer les avocats. J'ai plus de boulot. Et donc, il faut que j'attende effectivement le procès en appel qui durera de la même durée, à peu près 9 jours. Et si je suis acquitté une nouvelle fois, il faudra que j'attende encore 1 an avant d'espérer une indemnisation. Si elle correspond à ce que j'estime être valable, ça passe. Sinon, il y a un recours. Il y aura appel et cassation. Donc, ça peut durer encore 7-8 ans.
Voilà. Et en attendant, il n'y a pas forcément de revenus.
Non.
Hein. Alors, avant de reparler de la Poste, quand même, on en discutait aussi hors antenne. Qui va être le juge d'instruction et qui sera le procureur, du coup, pour ce deuxième procès? Tu disais que c'était possible que ce soit le même procureur, celui qui avait requis 30 ans de prison.
Oui. Alors, en fait, mon avocat m'a expliqué que c'est le procureur de la République qui a fait appel. Il a interjeté appel. Et donc, logiquement, ça serait lui. Sauf s'il se désiste au bénéfice d'un autre collègue magistrat. Sinon, ça sera lui. Le président, c'est un président qui fait toutes les cours d'appel. Il fait Albi, Montauban et Toulouse. Donc, c'est lui qui fait tous les procès en appel.
Donc, lui, ce sera une personne différente,
voilà.
Le président.
Voilà. Lui, ce sera une personne différente. Et le procureur, logiquement, et si tout se passe normalement, ce sera le même procureur de la République, oui.
Donc, celui-là même qu'on a dit, hein, qu'il avait été pris en flagrant délit de racisme.
Non. Non, c'est non. Celui qui était pris en flagrant délit de mensonge pendant son réquisitoire.
Ah d'accord, c'est pas le même...
Non, c'est pas celui qui s'occupait de moi pendant l'instruction, non.
D'accord, ah oui, d'accord. Ça, voilà. C'était le juge d'instruction qui avait été pris en flagrant délit de racisme. D'accord, oui, on reprécise alors.
Ouais.
Ok. Donc, un long épisode judiciaire qui s'annonce. Tu vas garder du coup les mêmes avocats et avocates? Tu repars avec cette équipe?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je garde les mêmes avocats.
Donc ça, c'est un long travail qui commence. Et puis alors, maintenant, on va parler effectivement de la Poste. On en a parlé plusieurs fois. Oui, Julien.
Juste une question sur l'appel. C'est 2 ans d'attente, là, enfin à peu près. Tu disais, il n'y a pas la date exacte.
Non.
Mais c'est 2 ans de vide, parce qu'il n'y a pas de nouvelle enquête, en fait.
Non.
On reprend les mêmes éléments, quoi.
Les mêmes éléments, les mêmes témoins. Il y a juste les jurés qui changent et le président.
D'accord.
Voilà.
Il n'y a pas de complément d'enquête.
Du coup, c'est 2 ans à blanc, quoi.
À blanc.
Ouais. Oui, avec le même dossier, toujours aussi vide.
Oui, complet.
Alors, mais par contre, du coup, c'est 2 ans aussi dans lesquels tu vas avoir peu de revenus. Hein, tu as commencé à le dire, hein, qu'il avait fallu payer les avocats et les avocates, vendre ta maison. Et donc, il y avait l'espoir de peut-être simplement être réintégré, puisque tu avais été innocenté, réintégré par ton employeur. Ça fait 21 ans que tu travaillais pour la Poste, c'est pas rien quand même. Tu as monté tous les échelons, hein, tu es rentré comme apprenti, si je ne dis pas de bêtises, tu as terminé directeur d'agence. C'est quand même preuve quand même d'une belle réussite au sein au moins de la Poste, quoi. Et là, après ton acquittement, on a senti, hein, il y avait eu des appels des commissions là, qui se rassemblaient, qui émettaient des avis négatifs. On sentait le licenciement arriver et donc il a été officialisé là, en ce mois de septembre.
Le 23 septembre.
Voilà. Donc, tout récemment.
Ouais. Ouais, j'ai reçu la lettre le 23 septembre.
En date du 15. Hein,
ouais. Oui, tout à fait. Me signifiant que j'étais donc licencié à compter de ce jour-là, avec un préavis de 3 mois, parce que j'étais cadre, donc la loi prévoit qu'il y ait 3 mois de préavis.
Et alors l'argument qui est donné, parce qu'évidemment ils ne peuvent pas dire que tu étais complice dans cette histoire-là, puisque la justice vient de dire le contraire, l'argument c'est de reprendre donc cette histoire de papier, hein, de plan que tu avais fait
sous la contrainte,
et de dire de la même manière que tu n'as pas porté plainte, eux ils disent ça n'a pas été dit à la hiérarchie.
C'est ça.
Mais on imagine bien qu'à partir du moment où il n'y a pas de plainte, il ne va pas y avoir non plus, ça ne sera pas dit à la hiérarchie, que c'est un peu la même démarche de toute façon. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu, tu as eu peur à l'époque et tu n'as pas rendu public cette information, quoi.
Tout à fait. En fait, c'est paradoxal parce que quand je suis passé en commission disciplinaire, j'ai eu l'impression d'être dans un nouveau procès à part qu'il manquait les jurés. Parce que la présidente, elle avait donné d'entrée son point de vue en disant qu'elle estimait qu'un cadre supérieur de mon rang devait avoir une conduite exemplaire. Donc, j'aurais dû dénoncer à ma hiérarchie ce qui s'était passé. Donc elle a annoncé d'entrer la couleur. Donc après, ces deux suppléants, c'était pareil. Ils ont annoncé la couleur. Donc c'était un procès, en fait, avec deux procureurs et un président. Donc je m'en suis expliqué à nouveau. Je leur ai expliqué, parce qu'ils ont utilisé l'arrêt du jugement. Si vous utilisez l'arrêt du jugement, à la fin, il y a marqué que je suis innocent. On reconnaît mon statut de victime, puisqu'on reconnaît que j'ai été agressé et j'ai dû faire le plan sous la contrainte. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord sur ça. Donc comment on peut expliquer que vous souhaitez me licencier parce que je n'ai pas dénoncé ça? Je suis victime autant que mes deux autres collègues, ce n'est que moi je n'ai pas porté plainte. C'est tout, par peur des représailles. Vous auriez dû en signifier. Même ce détail-là, en disant que j'aurais dû en parler à ma hiérarchie, mon avocat a demandé à mon supérieur de l'époque, et vous en aurez parlé, vous auriez fait quoi? J'aurais été au commissariat avec lui pour porter plainte. Donc c'est ce que je dis. Si j'avais été voir le chef pour lui expliquer que j'avais été victime d'une agression sous la contrainte, il m'aurait dit d'aller porter plainte, chose que je ne voulais pas faire par rapport aux peurs de représailles. Donc on tourne autour de ce sujet-là. Alors, la lettre, je l'ai là. Hein. On me dit que du fait que je n'ai pas dénoncé cette agression-là, donc je ne suis plus compatible dans la fonction de directeur d'établissement. Il faut que vous sachiez quand même que j'ai bien conscience de la gravité des choses. J'ai proposé changement de service, changement de région.
Oui, c'est ce qu'on pense dès le début. C'est, si le problème, c'est que tu ne sois plus directeur d'agence, à ce moment-là, simplement changer de poste, effectivement.
Je l'ai proposé. J'ai dit que j'acceptais de ne plus être directeur d'établissement. Et donc, j'acceptais un changement de service et avec un changement de région. Donc, j'ai fait la proposition d'emblée, moi. J'ai dit, je suis d'accord. Vous voulez mettre un avertissement? Mettez-moi un avertissement. Oui, d'accord, c'est bon. Mais eux, ils me reprochent dans ma lettre en me disant qu'ils me virent parce que je ne peux plus être directeur. Parce que je n'ai pas dénoncé. Mais oui, ok. Mais mettez-moi dans un service technique et je peux travailler. Non, mais moi, je ne comprends pas l'attitude de la Poste qui s'entête à vouloir faire de moi une victime une nouvelle fois, parce que moi, j'estime que je suis victime de la Poste. Par rapport au fait qu'il n'hésite pas à me licencier, alors même que mon statut de victime a été reconnu par la Cour d'assises, qui est la plus haute juridiction en France, juste avant la cassation. Donc je ne vois pas pourquoi on me vire. Il faut quand même que vous sachiez un truc qui a été dit pendant le procès, c'est que j'ai deux collègues qui ont été suivis par les malfaiteurs quand ils préparaient leur coup. Parce que ce n'est pas moi qui ai donné le coup, ça a été avéré. Donc elles ont... En audition, ils ont dit oui, on a été suivi, on n'a pas dit à la hiérarchie. Notamment celle de Bellefontaine. J'insiste sur celle de Bellefontaine, pourquoi ? Parce que...
Elles s'étaient aperçues qu'elles avaient été suivies, mais elles l'ont pas signalé.
Exactement. Donc, celle de Bellefontaine, une semaine avant le braquage, elle a été suivie par, en plus, des gens qui correspondent à la description des malfaiteurs. Les témoins de l'agression de Saint-Cyprien décrivent des gens africains, grands, de taille, costauds. Et elle dit... au lendemain du braquage de Bellefontaine, donc on est au 6 mars 2012, c'est-à-dire il y a 5 ans, elle dit « j'ai été suivie par une voiture ». Et sa collègue qu'elle transportait, elle dit « oui, c'est vrai, on a été suivie par une voiture, par des Africains, jusqu'à chez moi ». Pourquoi je vous en parle ? Simplement parce que si cette dame, cette collègue, à qui je reproche rien du tout, elle a eu peur, elle aurait dit « j'ai été suivie », il n'y aurait pas eu de braquage. Parce qu'on aurait mis sous sécurité ce bureau-là. S'il n'y a pas de braquage de Bellefontaine, il n'y a pas de Saint-Cyprien non plus, parce que c'est la même équipe. Et donc je ne fais pas de prison moi non plus. Et elle n'est pas inquiétée. Elle n'a pas, même pas été entendue par la direction pour une sanction disciplinaire. Moi, j'ai subi une agression, je me fais taper, menacer, je fais un plan qui ne sert à rien, et je suis viré. Donc je n'ai pas deux poids, deux mesures. Alors pourquoi ? Qu'on m'explique le pourquoi du comment, ça. Elles ne sont pas inquiétées, alors que c'est encore plus grave, parce qu'elles, elles ont une fonction à la poste qui était stratégique, elles étaient caissières, c'est les personnes qui sont visées par les braquages, et bien elles n'ont pas dit à la direction, et bien elles ne sont pas inquiétées.
Est-ce que toi, du coup, tu as une idée de la réponse un peu, de pourquoi ce traitement différencié entre elle et toi ?
Comme je disais tout à l'heure, je suis plein de haine, donc j'évite de penser, parce que je pense noir, et sans éléments factuels, je ne veux pas donner ma version, mais effectivement, oui, je pense à des choses, oui, malheureusement.
Ouais.
Oui. Comme me disaient les avocats que j'ai consultés, à l'époque où j'étais en prison, si tu t'appelais Stéphane ou François, ben, tu n'aurais pas fait autant de prison.
Ouais.
Voilà. Parce qu'il y a vraiment un traitement qui est inégal quand vous êtes français d'origine quelque chose. Voilà, ça c'est certain. Moi, je vous invite à lire un livre qui est très intéressant, qui a été écrit par un anthropologue, qui s'appelle Didier Fassin, ça s'appelle L'ombre des mondes. Et il fait un constat qui est plus qu'alarmant, dans lequel il décrit que quand vous êtes français d'origine, c'est lui qui utilise l'expression, africain ou maghrébin, vous avez deux fois plus de chances de vous faire condamner et les peines sont supérieures de 3 fois. Donc ouais.
Ça, c'est pour le monde judiciaire, mais là, on voit bien qu'en l'occurrence, même au sein de la Poste, il y a quelque chose comme ça qui se joue, hein, visiblement. Alors même qu'on l'a dit, tu as travaillé très longtemps pour eux. Alors on voit bien que tu donnes 21 ans de ta vie pour cette boîte, et puis au moment où finalement, il y aurait besoin que cette boîte t'aide, ne serait-ce que simplement en te réintégrant, ce qui te permettrait de retrouver évidemment un salaire, hein, après toutes les pertes financières que tu as eues, et bien là, d'un seul coup, ils sont aux abonnés absents. Quoi.
Ouais. Et là, tu as un recours contre ce licenciement ?
Oui, ben, je pense qu'on est vraiment dans l'ambiance Macron, là, l'ambiance Macron, parce que si ça s'était passé il y a un an, ben, je pense qu'ils auraient peut-être réfléchi un peu plus en se disant, bon, ben, la loi Macron permet de plafonner les indemnités, parce que moi, là, je suis à...
Alors là, on parle des prudhommes, hein,
effectivement. Le recours, c'est le seul recours que j'ai, c'est effectivement les prud'hommes. Et aujourd'hui, avec la loi Macron qui a été passée en force, là, avec sous ordonnance, les indemnités sont plafonnées. Donc je pense qu'ils n'ont pas hésité du fait de cette loi.
Ouais. Alors, il y a une pétition qui a été sortie, hein, on l'a dit, qui s'intitule « La Poste doit réintégrer Redouane Ikil ». Vous pouvez la retrouver sur Internet, notamment via la page Facebook du comité de soutien Liberté et Justice pour Redouane Ikil. Sinon, elle est sur un blog de Mediapart. Elle dit à un moment « Sans doute, la Poste pense-t-elle ne rien avoir à craindre du tribunal des prud'hommes, tant le recul annoncé des prérogatives de cette institution lui permet d'aborder avec confiance, voire arrogance, un éventuel procès ». Effectivement, on en profite, on fait une petite parenthèse, mais il y a 5 ordonnances qui viennent d'être signées par Macron. Elles réforment le code du travail, vous le savez. Elles ont été publiées au Journal officiel le 23 septembre, c'est le jour où tu dis que tu as reçu le courrier officialisant ton licenciement. Et une partie de ces mesures, pas toutes, hein, mais certaines vont nécessiter des décrets d'application, mais une partie de ces mesures vont s'appliquer dès maintenant, dès la publication. Donc ça y est, elles sont en vigueur, et c'est le cas de la baisse des barèmes des indemnités prud'homales. Donc effectivement, peut-être que ce calcul, il est rentré en ligne de compte, quoi. Que eux, ils avaient une espèce d'intérêt, alors quoi, qui serait marketing, de pas que le nom de la société La Poste soit plus associé à Redouane Ikil, quitte à payer un peu, mais bon, finalement, ça leur coûtera peut-être pas si cher que ça avec ce plafonnement des barèmes. Ça, c'est une explication que vous mettez en avant, toi et ton comité de soutien.
Complètement, complètement. Moi, c'est vrai que j'en rigole aujourd'hui avec mon avocat quand j'entends le slogan de La Poste, la banque citoyenne. Bon, mais elle est où la citoyenneté? Parce que j'ai été déclaré innocent par la justice française et elle me condamne à nouveau. Double peine, c'était aboli il y a longtemps, il y a plus de 20 ans.
Donc tu vas quand même attaquer au prud'homme, on oui. imagine bien.
C'est bien évident.
Et puis ça mobilise, hein, le comité de soutien mobilise, donc on redonne ce rendez-vous, c'est demain à Toulouse, à la Poste des Minimes. Pourquoi à la Poste des Minimes?
Parce que la direction de la Poste au niveau régional, elle est située à la Poste des Minimes, juste derrière le bureau de Poste des Minimes. Donc j'invite vraiment tous les gens qui sont sensibles à cette injustice, parce que là j'attire l'attention des auditeurs et des auditrices sur le fait que c'est plus un combat judiciaire là, que je mène. Là je suis impacté par la loi Macron et je suis persuadé que la décision a été prise par rapport au fait que la loi Macron allait passer sous ordonnance. Et quand par hasard le 23 je reçois mon licenciement et le 23 la loi elle est officielle, elle est promulguée. Donc moi j'invite tous les gens qui sont contre cette loi à venir se mobiliser derrière nous et avec nous pour dénoncer cet acharnement et ce licenciement abusif, parce que c'est vrai que j'ai donné 21 ans de ma vie à cette boîte. Pour moi c'était vraiment une histoire d'amour. Je suis rentré, j'étais apprenti, j'ai pris tous les postes qu'on ne voulait pas, même sur Pau, des créations de postes où c'était galère pour avoir du chiffre d'affaires. Et j'ai pris les deux bureaux de poste les plus difficiles de Toulouse, Bellefontaine, et j'ai pris le Mirail Université. J'ai accepté tout, parce que j'estimais qu'il faut faire deux fois plus pour y arriver quand on est français d'origine. Et je devais avoir une promotion, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu disais que j'étais directeur d'agence. Je devais intégrer un vivier sur un poste qui est extrêmement prisé. Donc c'est directeur de secteur, c'est-à-dire c'est moi qui chapeaute les directeurs d'établissement. Donc j'avais le vent en poupe et là on me scie la branche là direct et je prends un KO. Donc il est bien évident que je ne vais pas laisser faire et je continue à espérer que la Poste revienne sur sa décision, parce que c'est vrai qu'ils ont 3 mois dans le préavis, ils peuvent encore revenir sur cette décision parce qu'il y a encore des marges de négociation. Et l'idée de la mobilisation, c'est de leur dire arrêtez vos bêtises et revenez à la raison, réintégrer Redouane et dans une autre région, sur un autre service. Voilà.
Est-ce que t'as pas l'impression aussi d'être victime d'un autre système qui est à la Poste, comme dans d'autres entreprises, le lean management, où ça fait des années en fait qu'on essaye de dégraisser les effectifs de la Poste et que toutes les méthodes sont bonnes pour ça, voire des méthodes assez trash, et que du coup, bah, toi, ça tombe à pic, t'as été en procès, on t'a accusé de braquage, et puis c'est la super raison pour virer encore quelqu'un, quoi.
Non, je crois pas. Parce que moi, je faisais partie des cadres sup. Au niveau dégraissage, c'est moindre. C'est moindre. Non, je crois que, comme disait Benoît tout à l'heure, la Poste veut se décrocher de Redouane Ikil pour que l'image de marque et l'image de, entre guillemets, de la Poste, la banque citoyenne, entre guillemets, soit préservée. Donc je pense que c'est essentiellement ça. Hein, parce que, après, j'imagine aussi, parce que bon, j'ai encore beaucoup, beaucoup de contacts maintenant que je suis sorti, les gens... n'hésite plus à venir vers moi, les collègues postiers, et ils me disaient que voilà, il y a quand même encore une partie des postiers qui pensent que je suis intimement lié à ce braquage-là, même si j'étais innocenté. Donc, c'est aussi pour acheter la paix au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui pensent que on ne fait pas 38 mois pour rien.
Et oui, ouais. Quand on a installé de la suspicion, c'est pas facile. Après, on la retire pas comme ça d'un claquement de doigts. Hein, ça, c'est
complètement.
Sûr.
Même avec un acquittement, à l'unanimité.
Alors, juste un petit mot sur les soutiens que tu as. Donc, on a dit, hein, y a un collectif qui se bat depuis le début, hein, depuis que tu as été enfermé, qui continue. Et on a vu qu'il y a le syndicat Sud PTT, hein, ceux de Haute-Garonne et ceux de Pyrénées-Atlantiques, parce que tu l'as dit, tu viens de Pau, qui ont aussi signé, qui appellent au rassemblement demain à 14h, on n'avait pas donné l'horaire, à la Poste des Minimes, qui a signé la pétition, etc. Est-ce que tu es soutenu par d'autres syndicats de la Poste? Comment ça se passe?
Ah non, pas du tout. Je vais vous dire, je vais parler de deux syndicats qui me donnent envie de vomir, là. La CFDT et CGC, parce que c'est en 21 ans de boîte, c'est la première fois que je vois deux syndicats voter le licenciement d'un collègue. Ils ont été dans le même sens que la direction. Alors même qu'ils m'ont posé des questions qui étaient pertinentes sur le fait que j'ai été reconnu victime de la séquestration dont j'ai été victime. Et ils ont été jusqu'à voter mon licenciement. C'est deux pourris qui siégeaient. C'est deux personnes qui me donnent envie de vomir. Ils volent de l'argent aux adhérents de leur syndicat. Parce que siéger et dire qu'on est des représentants du personnel et aller dans le même sens que la direction, à savoir demander le licenciement d'un collègue pour lequel il n'y a rien, aucune faute, parce que c'est avéré, on me dit que je n'ai pas fait de faute au niveau professionnel, simplement que je n'ai pas dénoncé mon agression, et ça se prétend représentant du personnel. Je n'ai pas les noms, parce que sinon, si j'avais les noms, parce que j'ai écrit pour avoir leurs noms, parce que ça m'embête de taper sur deux syndicats dans leur généralité. Mais il n'empêche que c'était les représentants de ces syndicats, donc CFDT, je répète, et CGC, deux pourritures. Voilà, deux pourritures qui ont voté. Moi, j'ai siégé dans des commissions disciplinaires. Quand vraiment vous n'avez pas de courage, moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je suis sud, je suis resté sud, j'ai toujours voté contre la direction. Quand c'était des histoires de discipline, parce que c'était toujours au-delà de ce que ça méritait comme sanction. Mais quand on n'a pas de courage, eh bien, au moins on s'abstient. Eux, ils ont été dans le sens de la direction. Donc pour moi, c'est deux pourritures.
Et puis en l'occurrence, les directions syndicales ne les ont pas désavouées, hein, ils n'ont pas fait un communiqué. Donc on peut dire quand même que les syndicats sont solidaires de ce qui a été
voté. De leur décision, oui, ouais. Tout à fait.
Merci Redouane. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des choses peut-être que toi à ajouter?
Non, simplement, vraiment, j'attire j'en appelle à la solidarité des gens qui écoutent cette émission à venir demain à 14h pour nous aider à montrer à la Poste qu'il est hors de question qu'ils jouent avec la loi Macron et qu'ils se séparent de personnes qui ne méritent pas un licenciement.
Oui, et puis comme le dit le texte de ton comité de soutien, hein, celui de la pétition que vous pouvez retrouver en ligne, il n'y a pas de raison d'être condamné, parce que c'est une punition, hein, alors même que tu as été reconnu innocent hein, par la justice. Voilà. Donc le rassemblement, c'est demain à 14h à la Poste des Minimes. Tu l'as dit, il y a la direction derrière, c'est 167 avenue des Minimes, c'est vraiment du côté de Barrière de Paris, tout en haut du boulevard des Minimes. Si vous voulez prendre contact avec le comité de soutien, c'est Liberté et Justice pour Redouane Ikil. Vous les trouverez notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook. Voilà. Redouane, on te souhaite beaucoup courage dans ce
merci
combat.
Merci beaucoup et merci de votre soutien.
Oui, bien sûr.
Redonnez peut-être l'adresse de la pétition.
Alors, je n'ai pas l'adresse de la pétition, mais vous la trouverez soit par le Facebook, soit vous tapez, c'est La Poste doit réintégrer Redouane Ikil. Si vous tapez Redouane Ikil dans n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur tous ces liens, ainsi que sur pas mal d'articles, car mine de rien, les médias de masse ont commencé un peu à s'emparer, doucement mais sûrement,
demain,
de cette
France
affaire.
3. Ouais, demain, il y a France 3 qui vient à la maison.
Puis nous remettra les liens aussi sur le site de Canal Sud.
Ouais, ouais, merci.
Où vous pouvez retrouver le podcast. Merci Redouane.
Merci à vous et bon courage à vous aussi.
Et on termine avec Assassin, l'île de l'inconscient.
Bien, bien.
Dans la panoplie reluisante des âmes du savoir, la sensibilité est une flèche obscure, un trait mystérieux qui ne s'égare pas quand tombe le jour de la conscience claire.
L'émancipation du gangster rap, du ragga slackness, des ghettos de Kingston, des productions cinématographiques ou audimat. Le temps flèche tous les héros des gommes, les jeux vidéo, c'est comme Nintendo, où la pédagogie malheureusement frise le zéro. De la technologie poussée sans se soucier des réels besoins de l'homme dans nos sociétés. Des dessins animés violents aux quatre coins du globe. Goldorak a depuis longtemps smoké Colacol et la femme traînée dans la boue à coups de hit vocal. Fait que dans ma tête depuis longtemps a retenti l'alarme, alors installe-toi. Autre face du feras, autre schéma dans l'ombre de l'industrie que l'on ne voit pas. Bah wow wow, yippee yo, yippee yay. Nothing but conscious time. Mon esprit n'est pas né pour se faire assassiner. La conscience qui peut nous inculquer me fait réaliser que la conscience que j'ai accumulée me donne une contexte, c'est pour m'échapper de l'île de l'inconscience. La conscience est mon ennemi. Sa présence est mon ennemi. Quand je la croise au quotidien, ma conscience lui dit fuck you. Mes atouts sont mes rimes, ma rime tiendra le coup. La conscience est mon ennemi. Sa présence est mon ennemi. Quand je la croise au quotidien, ma conscience lui dit fuck you. Mes atouts sont mes rimes, ma rime tiendra le coup. Tu comprends, ici les enfants grandissent en rêvant de devenir le man qui fera le plus d'argent.
Gratta, gratta sans ta mandoline, mon petit bambino. La précipitation a toujours refermé les taux. Ici on vend de tout, des organes, des femmes, la terre, les arbres, des armes qui enflamment, des peuples plongés dans le drame, des enfants qu'on sépare de leur famille dans les larmes. L'amertume de ma plume se consume comme un pétard que l'on fume à sous ses actes et parfume. Les coutumes du bitume nous donnent une tribune pour un groupe militant nocturne. Exhume le passé et ressurgit en travaux d'urne. La cité peut craquer, nous c'est à l'assemblée qu'on ira allumer le premier bûcher. On ne brûle pas les écoles, on ne brûle pas les bibliothèques. Regarde à Gucci, Scully, dit, te l'a dit, il est l'heure de s'y mettre. L'inconscience est mon ennemi, sa présence est mon ennemi. Quand je la croise au quotidien, ma conscience lui dit fuck you. Mes atouts sont mes rimes, ma vie tiendra le coup. L'inconscience est mon ennemi, sa présence est mon ennemi. Quand je la croise au quotidien, ma conscience lui dit fuck you. Mes atouts sont mes rimes, ma vie tiendra le coup. La poésie philosophique qui émane de mon cou nous donne des ailes pour décoller du fond du trou. Nous ne serons pas prisonniers de l'île, ni de la parole habile des grands orateurs fachos qui avancent une pensée nationaliste débile. Nous ne serons pas non plus prisonniers des écarts de l'histoire, mais comprenons le flot migratoire des peuples vivant le désespoir. Nous ne gobons pas l'information raciste, un massif de saloperies. Pour une masse abasourdie, la mélodie sauve nos esprits, nos corps, nos énergies. As-tu compris? On représente, représente la positivity. Représente, représente la création. Représente, représente la reality. Trop de mes semblables ressemblent à des légumes, végétant devant l'horreur, couvant leur fortune, laissant le volume, se purifiant aux urnes. Je les fume. L'inconscience est mon ennemi, sa présence est mon ennemi. Quand je la croise au quotidien, ma conscience lui dit fuck you. Mes atouts sont mes rimes, ma rime tiendra le coup. L'inconscience est mon ennemi, sa présence est mon ennemi. Quand je la croise au quotidien, ma conscience lui dit fuck you.